Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, un jour dans le monde cherche un disparu en Argentine, sujet sensible qui fait remonter des souvenirs douloureux et nous y sommes avec Caroline Vic. Brexit saison 2, le rendez-vous du lundi avec le Royaume-Uni sécessionniste et avec Antoine Gignot. Florence Paracolos, vous l'avez entendu, viendra nous parler d'Inde, de Japon et de toute l'actu internationale passée sur les radars et que vous avez sûrement raté, le fake news de la semaine déniché par Alexandra Akoun. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger et l'opposition à Maduro en visite en Europe. Allez, le monde est vaste, parfois difficile à lire. On essaye, première escale en Corée du Nord forcément.
Fabienne Synthès, un jour dans le monde.
대륙간 탄도 로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공.
Allez, même si vous ne connaissez pas son nom, vous voyez son visage, vous voyez surtout son kimono rose. Une fois de plus, c'est elle, cette présentatrice coréenne qu'on ressort à chaque moment important, qui a annoncé le dernier tir de Kim Jong-un et ses bombes H, cette fois donc le plus puissant jamais réalisé par la Corée du Nord, 6e essai nucléaire. Peut-être qu'on va pas tarder à la revoir, d'ailleurs, cette présentatrice, allez savoir dans les jours qui viennent. Bonjour Antoine Bondas.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine et des deux Corées. Les mesures les plus fortes possibles doivent être prises, c'est ce que dit Washington. La Corée du Nord supplie, nous supplie de faire la guerre, c'est ce que dit Nikki Haley, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. De nouvelles sanctions sont sur la table. Je suis de nature optimiste habituellement, mais là, est-ce que je dois rester optimiste? Est-ce que je m'inquiète un peu ou pas?
Pour ce qui est des sanctions, celles-ci sont indispensables pour afficher l'unité de la communauté internationale et tenter par tous les moyens de ralentir le programme nucléaire et balistique nord-coréen. Cependant, et à l'évidence, ces sanctions sont insuffisantes à elles seules pour forcer la Corée du Nord à se dénucléariser pour une raison simple, c'est que les bénéfices politiques, la légitimité du régime, et les bénéfices militaires, la dissuasion, continuent de dépasser largement le coût économique des sanctions et l'isolement diplomatique qu'elles entraînent.
Alors, on va y revenir. Je voudrais quand même revenir sur un point. Est-ce qu'on ne s'est pas tous totalement trompés quand même sur l'état d'avancement de la technologie nord-coréenne en matière d'armement nucléaire, sur les progrès qui ont été très importants et surtout comment on s'est autant trompé?
Alors, la Corée du Nord, très certainement, a été sous-estimée. On a sous-estimé ses capacités, sa détermination totale à poursuivre son programme nucléaire et balistique. Et on a également surestimé le risque d'un effondrement du régime nord-coréen. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Kim Jong-un, depuis son arrivée au pouvoir, fin 2011, a considérablement accéléré ce double programme. Pour vous donner juste un chiffre, son père avait réalisé 16 essais balistiques entre 1994 et 2011. Kim Jong-un, depuis fin 2011, en a réalisé plus de 80.
Mais moi, ça me frappe quand même qu'on n'ait rien vu venir, parce que ne me dites pas qu'il n'y a pas des satellites espions, des espions tout court, du renseignement. Enfin, à l'époque où l'Iran était en train de préparer peut-être une bombe ou du nucléaire civil, dès qu'un ingénieur levait un petit doigt, on le savait. Alors, pourquoi on ne sait pas ça?
Depuis 2006, on sait parfaitement, depuis ce premier essai nucléaire, qu'il y a un programme nucléaire qui existe d'ailleurs depuis bien plus longtemps, depuis des décennies.
Qu'il existe. Oui, qu'il en est là, c'est une autre question.
Pour ce qui est du programme nucléaire, cette avancée est en quelque sorte logique. La Corée du Nord perfectionne son programme nucléaire et donc désormais, très certainement, est parvenue à faire exploser une bombe à hydrogène. Pour ce qui est du programme balistique, il y a une interrogation qui est légitime pour essayer d'expliquer la rapidité vraiment incroyable à laquelle Kim Jong-un a réussi à non seulement multiplier les essais, diversifier le type de missiles testés et également diversifier les zones de lancement depuis lesquelles sont effectués ces essais.
Alors la question qui revient le plus souvent, effectivement, vous l'avez un peu évoqué à l'instant, c'est qu'est-ce qu'il veut, à quoi il joue? Est-ce que le fait d'être une puissance nucléaire lui assure le fait que personne autour de lui ne cherchera à le déloger? Est-ce qu'à la base, sa motivation, c'est ça?
Alors il peut y avoir deux principales dimensions. La dimension que vous mentionnez, une dimension militaire, des armes de dissuasion afin d'empêcher toute intervention militaire sur le territoire nord-coréen.
En gros, je ne serai pas Kadhafi, je ne serai pas Saddam Hussein.
Exactement.
Ce ne serait rien de tout ça.
Il y a une autre dimension, peut-être qu'on a sous-estimé, une dimension politique. Les armes nucléaires en Corée du Nord ont été inscrites dans la Constitution dès 2012 et ce double programme nucléaire et balistique permet de renforcer l'autorité de Kim Jong-un, la légitimité du régime, la cohésion nationale. Et ce qui est très important, c'est qu'en réalité, ces armes aujourd'hui font partie de l'identité même du régime nord-coréen, ce qui rend la dénucléarisation à court terme quasiment impossible.
Et ben c'est pourtant ce que demande la Chine d'ailleurs. Tiens, à l'instant, je vous le lis, puisque la Chine, qui elle veut toujours négocier, prône un dialogue pour dénucléariser la péninsule coréenne, peine perdue, non? Alors ça s'appelle des déclarations qu'on fait juste avant une réunion des Nations Unies, mais
alors,
peine perdue, non?
À court terme, la dénucléarisation est impossible. Cependant, il faut conserver la dénucléarisation comme un objectif de long terme, pour une raison simple. Reconnaître aujourd'hui officiellement la Corée du Nord comme une puissance nucléaire, c'est détruire, mettre à bas le traité de non-prolifération, et c'est demain légitimer la nucléarisation de la Corée du Sud, la nucléarisation du Japon, et la nucléarisation peut-être d'autres puissances.
Est-ce qu'il faut commencer à le regarder différemment, ce Kim Jong-un, dont on a beaucoup rigolé ces derniers temps, y compris d'ailleurs au moment des premiers essais, en se disant « mais ce type est complètement dingue et tout ça n'est pas sérieux ». Est-ce qu'il est finalement plus fin stratège qu'il en a l'air? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à le prendre un peu au sérieux dans ce sens-là?
Le régime nord-coréen, quels que soient les moyens utilisés, ça reste tout de même, il faut le rappeler, un régime totalitaire n'a qu'un seul objectif, assurer la survie du régime politique. Donc le régime est pragmatique, le régime est rationnel. Est-ce qu'aujourd'hui Kim Jong-un a envie d'initier une guerre avec les États-Unis qui conduirait très certainement à un effondrement du régime nord-coréen? À l'évidence, non. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi le manque de respect vis-à-vis de Kim Jong-un, c'est-à-dire on l'a humilié.
C'est ça qu'il dit aussi avec ses frappes, non?
Également, mais c'est un vrai problème. Par exemple, lorsque vous avez le sénateur américain John McCain qui parle de ce petit gros, et vous avez de nombreux adjectifs qui ont été utilisés pour critiquer Kim Jong-un, ça ne permet pas de faire avancer le dossier, ça ne permet pas de prendre la Corée du Nord au sérieux, et ça ne permet surtout pas de réaliser un dialogue concret qui peut permettre peut-être à court terme, d'un gel du programme nucléaire et balistique, et qui doit surtout permettre d'éviter une escalade militaire.
Et les gesticulations verbales de Trump, c'est du même acabit, n'aident pas? Est-ce qu'elles le poussent à la même chose? Chiche que je vais plus loin, puisque tu m'agresses avec les tweets et autre chose.
Alors les déclarations de Trump, qui ne sont pas, il faut le rappeler, déclarations de l'administration américaine.
Absolument.
Il faut bien différencier. Les déclarations de Trump sont, à mon avis, contre-productives pour de nombreuses raisons. Premièrement, elles ne rassurent pas les alliés sud-coréens et japonais dans la région. On a vu hier...
Elle les inquiète particulièrement.
Exactement, on a
vu j'étais
hier,
sud-coréenne ou japonaise, j'aurais peur des tweets de Trump.
Hier, le président Trump a critiqué dans son troisième tweet, après avoir critiqué la Corée du Nord, la politique de la Corée du Sud. Mais ces tweets vont même plus loin. Ces tweets, en réalité, légitiment le régime nord-coréen, puisque ce sont autant d'éléments de langage qui peuvent ensuite être récupérés et réutilisés par la propagande nord-coréenne pour se légitimer, et légitimer évidemment le programme nucléaire et balistique aux yeux de la population.
Antoine Bondaz, est-ce qu'on peut imaginer une attaque conventionnelle sur les sites nucléaires? Est-ce que c'est totalement hors de question? Est-ce que c'est une option qui existe?
Alors, cette option est toujours possible, mais elle a un coût considérable et elle n'est pas réaliste pour trois principales raisons. La première, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de garantir que des frappes conventionnelles neutraliseraient l'intégralité des sites nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Deuxièmement, la Corée du Nord répliquerait très certainement visant les alliés des États-Unis, à savoir principalement la Corée du Sud et le Japon. Séoul, 25 millions d'habitants, à 50 km de la frontière, à portée de tir de l'artillerie conventionnelle et chimique nord-coréenne, ce sont des centaines de milliers de ressortissants étrangers. Et un troisième point, dont on parle trop peu souvent, le rôle de la Chine. La Chine et la Corée du Nord sont liées par un traité de défense signé en 1961. Si la Corée du Nord se fait attaquer légalement, la Chine est censée venir à l'aide de son voisin.
Et ben la Chine, tiens, puisque vous en parlez, est-ce que la Chine est en train quand même de jouer une drôle de double jeu avec à la fois au Conseil de sécurité, on verra ce soir ce qu'elle dira, mais on sent bien qu'elle penche effectivement contre la Corée, ce qui était déjà en soi important la première fois qu'elle l'a fait, et en même temps, elle n'étouffe pas économiquement la Corée. Or, elle a les moyens de le faire.
La Chine a une politique d'équilibre depuis le début des années 2000. Et depuis le vote de la première résolution en 2006 condamnant le premier essai nucléaire nord-coréen. D'un côté, la Chine veut apparaître comme une puissance responsable de la communauté internationale. Mais dans un deuxième temps, la Chine veut éviter à tout prix une instabilité dans sa périphérie. Et par instabilité, on entend tant une guerre, une nouvelle guerre de Corée, mais également un effondrement du régime nord-coréen. Et donc la Chine continuera de négocier les sanctions de l'ONU en amont et n'acceptera de voter des sanctions que si et seulement si elle ne risque pas d'entraîner un effondrement du régime nord-coréen.
Alors mais négocier, effectivement, on comprend bien ce que vous dites, la Chine n'a aucun intérêt à avoir une frontière commune avec la Corée qui est donc l'allié des Américains, donc pour l'instant finalement il arrange tout le monde, ce Kim Jong-un, mais quand on parle de négocier, on parle de négocier quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut lui dire à ce garçon qu'il peut entendre? Qui peut le raisonner? Quel est le levier?
Alors, premièrement, la dénucléarisation n'est pas un objet de négociation à court terme. Ça doit encore une fois rester un objectif à long terme. Ça ne peut pas être un objectif à court terme. Ce qui est potentiellement faisable, c'est de négocier un gel. Et ce serait le plus important aujourd'hui de parvenir à un gel du programme nucléaire et balistique nord-coréen. Depuis 10 ans, la stratégie internationale qui a visé à obtenir une dénucléarisation avant tout n'a pas permis de contenir la menace puisque celle-ci s'est considérablement renforcée.
Mais un gel contre quoi ? Qu'est-ce qu'on lui donne en échange ? Si lui dit d'accord, je gèle, qu'est-ce qu'on lui donne en échange ?
C'est la grande question que doit se poser la communauté internationale. La question de la reconnaissance ne doit pas être sur la table. Encore une fois, elle aurait des conséquences pour Séoul, pour Tokyo et pour d'autres pays. Il peut y avoir des garanties de sécurité. Il peut y avoir la signature d'un traité de paix dans la péninsule. Il peut y avoir une reformation de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud. Non pas un retrait américain, mais par exemple la volonté des États-Unis de ne pas déployer certains équipements militaires sans, encore une fois, remettre en cause l'alliance.
Donc le donnant-donnant, il est géopolitique. Si on propose plus d'aide financière aux Coréens, etc., tout ça, ça ne marche pas, ça n'intéresse pas.
Kim Jong-un n'a pas développé, et son père et son grand-père n'ont pas développé un programme nucléaire et balistique pour obtenir une aide alimentaire. Le programme comme outil de marchandage politique, comme on l'a cru dans les années 90 et 2000, comme de nombreux experts et comme de nombreux officiels l'ont cru, a été une erreur.
Les Coréens du Nord, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Est-ce que cette politique-là, est-ce que cette manière de dire, voilà, ce discours de menace vis-à-vis des États-Unis, est-ce que ça prend dans la rue ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils entendent ? Vous parliez de sa popularité tout à l'heure. Est-ce que réellement, elle est grande en Corée du Nord ?
Alors, il est toujours très difficile de parler de l'opinion publique en Corée du Nord, à l'évidence. Ce qui est sûr, c'est que ce programme nucléaire et balistique permet de renforcer la cohésion nationale et de créer une fierté au sein de la population. Il faut bien comprendre que la Corée du Nord, petit pays aux capacités économiques et militaires limitées, sanctionné par la communauté internationale, parvient à développer un programme nucléaire et balistique et à se mettre non pas sur le même niveau, mais en tout cas à approcher le niveau des grandes puissances.
Mais est-ce que ça marche vraiment ? Parce que effectivement, la Corée du Nord est parfaitement verrouillée, mais aujourd'hui, rien n'est réellement verrouillé. Il y a des choses qui passent, il y a des téléphones portables, il y a des filets d'internet ici et là. Qu'est-ce qu'ils entendent, à votre avis, de ce qui se passe autour, des réactions que ça provoque ?
Ce qui peut être sûr, c'est que la paranoïa d'une attaque américaine perdure en Corée du Nord et que les gesticulations et les tweets du président Trump ne font que la renforcer. Et ça, c'est vraiment un problème extrêmement important aujourd'hui.
Est-ce qu'on vit mieux, d'ailleurs, en Corée du Nord aujourd'hui ? Est-ce qu'on mange mieux qu'à l'époque de Kim Jong-il ? Enfin, on ne parle plus de famine, on ne parle plus de tout ça. Est-ce qu'en plus, de toute façon, il a apporté ça à son peuple,
Alors,
Kim Jong-un ?
Alors, on vit à l'évidence beaucoup mieux aujourd'hui en Corée du Nord que dans les années 90, pendant cette crise protéiforme. Kim Jong-un, depuis son arrivée au pouvoir, a effectué des réformes économiques partielles qui ont permis de relancer l'économie. Pour vous donner juste un chiffre, l'année dernière, on estime la croissance de l'économie nord-coréenne à 3,9%. Alors, il y a des différences entre Pyongyang et le reste du pays. Pyongyang est en réalité une bulle de développement, contrairement au reste du pays. Mais cela est une source de légitimité pour Kim Jong-un. Il l'a bien compris à travers notamment la stratégie nationale qu'on appelle la ligne Pyongjin, qui veut dire littéralement le développement simultané des capacités militaires, nucléaires, mais aussi du développement économique.
Parce qu'une opposition interne, ça existe quasiment pas, ça doit être totalement embryonnaire. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de départs, par exemple, vers la Chine et la Corée du Sud ? Est-ce que ça existe, des transfuges, des clandestins ? Est-ce que ça existe à au moins une moindre échelle ? Je sais bien qu'il y en a quelques-uns, mais à quelle échelle ça existe ? Alors, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de quitter la Corée du Nord, finalement, les Coréens ?
Alors, il y a de nombreuses défections de la Corée du Nord vers la Chine. Certains rejoignent ensuite la Corée du Sud, à peu près entre 1000 et 2000 par an. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la frontière, en réalité, entre la Corée du Nord et la Chine est poreuse. Il y a de nombreux trafics, il y a de nombreux passages, de nombreux Nord-Coréens vont travailler en Chine, reviennent ensuite en Corée du Nord pour ramener de l'argent. Bien évidemment, ils font attention de ne pas se faire attraper par les services de sécurité nord-coréens, mais la frontière est poreuse.
Juste une toute dernière question, Antoine Bondaz. Qu'est-ce qu'on attend ? Quelles nouvelles sanctions, à votre avis, là, tout à l'heure, au Conseil de sécurité, qui va se terminer
Alors,
dans
les sanctions ne pourront pas être adoptées aujourd'hui, puisqu'il va falloir les négocier, cela prendra plusieurs semaines. Dans l'éventail des sanctions possibles, il y a notamment interdire toutes les exportations de pétrole vers la Corée du Nord. C'est peu crédible que la Chine l'accepte, pour une raison simple, c'est que interdire les exportations de pétrole vers la Corée du Nord risquerait d'entraîner son effondrement.
Antoine Bondaz, chargé de recherche pour la Fondation de la Recherche Stratégique. J'ai comme ça dans la tête que vous allez revenir assez rapidement dans Un Jour dans le Monde. J'ai envie de dire hélas, mais on était ravis de vous avoir.
Merci.
La suite dans Un Jour dans le Monde avec les maires de la place de Mai en Argentine, parce qu'une disparition ravive des souvenirs terribles et vous le découvrirez dans un instant. Antoine Gignot, Brexit, saison 2. Le débat va chauffer à la Chambre des communes maintenant, Antoine, c'est ça ?
Luban, avec 12 000 réglementations européennes adaptées au Royaume-Uni dans une ambiance à couper au couteau.
Et Planète Média, Alexandra Hakoun, le fake de la semaine, juste en un mot.
Une histoire de soda qui nous mènera au Nigeria.
Allez, bien d'autres choses aussi. Merci de nous écouter. Tiens, si vous vous demandez à quoi ressemble Bob Marley en coréen, eh bien voici la réponse. Et nous sommes en Argentine. Pourquoi l'Argentine ? Parce que depuis une manifestation il y a un mois, une manifestation des peuples aborigènes de Patagonie qui défendaient leurs terres, un jeune homme de 28 ans a disparu. Il s'appelle Santiago Maldonado. Et dans un pays comme l'Argentine, vous le savez, une disparition soulève des morceaux d'histoire. Bonsoir à vous, Caroline Vic.
Bonsoir.
Caroline, la place de Mai chez vous à Buenos Aires se remplit rarement de façon anodine. Et cette disparition ne parle pas que de Santiago Maldonado.
Oui, effectivement. Selon des témoins, il aurait été vu pour la dernière fois emmené de force dans un camion par des gendarmes. La gendarmerie nationale est donc mise en cause, ainsi que la ministre de la Défense, qui a donné l'ordre direct de réprimer. Alors l'État, responsable d'une disparition forcée, ce n'était pas arrivé depuis la dernière dictature militaire il y a 40 ans. Et donc le cas de Santiago a réveillé de profonds traumatismes dans ce pays où 30 000 personnes ont disparu sous Videla.
Eh bien Caroline, on l'écoute, votre reportage dans cette dernière manifestation sur la fameuse place de Mai.
À un mois de la disparition forcée du jeune artisan, 250 000 personnes se sont réunies sur la place de Mai. Sur les pancartes, cette question « Donde está Santiago ?»« Où est Santiago ?» Cette même question écrite sur les murs de Buenos Aires, sur des affiches placardées partout en Argentine, ou encore mentionnée plus de 75 millions de fois sur les réseaux sociaux. Sur la scène, le frère de Santiago réclame la vérité et la démission de la ministre de la Défense. La foule furieuse se joint à lui. Incompréhension, tristesse, colère, la blessure qu'on pensait définitivement refermée vient de se rouvrir. Nelvi, 65 ans, se souvient de ses années noires il y a 40 ans.
Ça a été un moment très dur. J'ai perdu des êtres chers, des amis, de la famille. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de travailler, de se taire et de continuer à vivre. Aujourd'hui, c'est nécessaire de descendre dans la rue. On ne peut pas revivre cela en Argentine.
Paola, elle, est d'une autre génération. Elle est née en pleine dictature en 78. Pas de souvenirs directs de cette époque, mais une même conscience. Elle aussi revendique le « plus jamais ça », ce cri des Argentins lancé au retour de la démocratie en 1983. Pour elle, ce n'est pas un slogan publicitaire à prendre à la légère. Paola.
On peut être pour ou contre ce gouvernement, mais ce qui ne peut pas arriver, c'est que quelqu'un disparaisse et que ça semble tout à fait normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas permettre et qui ne doivent plus jamais se passer. Plus jamais ça. C'est un concept extrêmement profond qui veut dire beaucoup dans l'histoire argentine.
Le 24 mars 1976, le général Rafael Videla prend le pouvoir. Ce matin-là, à la radio, le coup d'État est annoncé. Les Argentins sont sommés d'obéir aux nouvelles règles de la junte militaire. Lors d'une de ses rares conférences de presse, Videla répond à un journaliste sur les disparitions d'étudiants et d'opposants.
Nous, les Argentins, nous n'avons rien à cacher ni n'avons honte de rien. Parce que, justement, cela a eu lieu pour défendre les droits du peuple argentin, gravement menacé par une agression de terroristes qui prétendaient changer notre mode de vie. Les disparus, bon, c'est un mystère, donc on ne peut rien faire. Il n'a pas d'identité, il n'est pas là, ni mort ni vivant, il a disparu.
Aujourd'hui, on sait que faire disparaître les opposants au régime faisait partie d'un plan systématique. En tout, 30 000 personnes ont disparu en Argentine. Et si une jeune femme enceinte était capturée, on la séquestrait en attendant qu'elle accouche. Puis elle était assassinée et le bébé adopté par des partisans des militaires sous une nouvelle identité. Le mot « disparition » est donc associé dans l'imaginaire collectif à la terreur, à la cruauté, au génocide. 40 ans après, le traumatisme de la disparition est toujours présent. Cette peur de ne pas être protégé par l'État, d'être délaissé, c'est pourquoi le gouvernement actuel est fortement critiqué. Elina Aguiar, membre de l'Association argentine des psychologues et psychanalystes de groupe et vice-présidente de l'Assemblée permanente des droits de l'homme de Buenos Aires.
Les Argentins ont appris qu'on ne doit pas rester immobile et paralysé. C'est une leçon sur l'histoire, puisque même en pleine dictature, les mères d'aimer, elles marchaient. Quand il y a du traumatisme au niveau psychologique, c'est parce qu'on n'a pas de protection. Et l'État qui devait vous protéger, c'est celui-même qui vous attaque. Seulement, le traumatisme social, on peut commencer à l'élaborer avec une organisation collective. C'est très important qu'il ne s'installe pas l'anesthésie dans notre société.
Car il existe bel et bien une culture de la lutte en Argentine. Les mères à la recherche de leurs enfants en sont les exemples. Ces mères qui n'ont jamais baissé les bras et qui se réunissent encore aujourd'hui tous les jeudis sur la place de Mai depuis 40 ans pour que le monde n'oublie pas leur combat. La disparition de Santiago Maldonado aujourd'hui aux mains de l'État est donc vécue comme une provocation à l'histoire. Tati Almeida, maire de la place de Mai.
C'est inconcevable que nous devions crier de nouveau « Apparition en vie » comme nous le faisions il y a 40 ans pour nos enfants, dans un gouvernement constitutionnel. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un contexte de tyrannie. Il n'y a pas non plus de disparition systématique. Mais vraiment, que ce genre de choses ait lieu aujourd'hui, c'est très douloureux.
Mais au vu de la mobilisation vendredi dernier lors de ce rassemblement mêlant toutes les générations, il semble que la graine du combat et de la détermination plantée par les mères et les grands-mères de la place de Mai porte aujourd'hui ses fruits. Manuela Castañeira, membre du collectif des droits de l'homme, Mémoire, Vérité et Justice.
Quand on perçoit une situation similaire à un moment néfaste de notre histoire, la société réagit. Nous avons bien compris aujourd'hui qu'il ne fallait pas laisser passer un fait aussi grave que cette disparition. Car si on ne donne pas une réponse démocratique, si on ne se bat pas, il pourrait y en avoir d'autres. Pour nous, une seule disparition forcée est largement suffisante pour sortir dans la rue. On est là pour Santiago.
Et alors que des centaines de milliers de personnes marchaient dans tout le pays, ni le président ni la ministre de la Défense impliquée n'ont réagi. Une indifférence qui risque de mobiliser plus encore les Argentins qui ont tiré les leçons du passé et qui sont bien déterminés à ne céder ni à la terreur ni aux mensonges.
Santiago Maldonado,
presente.
Ahora. Ahora.
Caroline Vic, avec nous dans Un jour dans le monde, depuis Buenos Aires.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Esse.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actu dans le monde en série, Brexit saison 2, ventre rendez-vous avec Antoine Gignot. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors si j'ai bien compris, la suite des événements Antoine, après les négociations, on va dire mi-figue mi-raisin, de la semaine dernière.
Absolument.
Cette fois c'est à la Chambre des communes qu'on va parler Brexit et cette rentrée apparemment va pas se passer dans la gaieté.
Oui, ambiance ring de boss, les deux boxes, les bagarres ont déjà commencé parce que les parlementaires sont censés examiner cette semaine le Great Repeal Bill. C'est ce texte qui doit permettre au pays de continuer à fonctionner après 2019, une fois que le pays aura quitté l'Union européenne. Et c'est un gigantesque chantier. Imaginez, on prend toutes les réglementations, toutes les dispositions légales européennes qui s'appliquent aujourd'hui, depuis l'écologie jusqu'au droit du travail, en passant par les transports, on les transpose dans le droit britannique et ensuite on donne au Parlement l'autorisation de les modifier. En théorie, c'est simple, sauf que des réglementations européennes, on en compte aujourd'hui environ 12 000. Alors pour les adapter, il faudra sans doute au total plus d'un millier d'arbitrages. Les débats en deuxième lecture sont censés débuter jeudi matin, mais en réalité, la guerre a déjà commencé à cause des négociations qui patinent. Premier à tirer sur les conservateurs et le gouvernement, ce sont les libéraux démocrates qui attaquent, Nick Clegg en tête.
C'est comme si nous étions face à un chantier, en face d'un terrain à bâtir, vide, et que nous disions « Ah, on a bien avancé, on s'est fait une tasse de thé ». Nous n'avons fait aucun progrès matériel, quel que soit le domaine. Ce gouvernement a perdu une année. Ils n'ont toujours pas réussi à présenter une vision cohérente de la façon dont le Royaume-Uni peut fonctionner hors de l'Union européenne. Ils n'ont écrit que de petites notes techniques et sans consistance. Nous avons, en tant que pays, demandé à quitter le club européen, et le gouvernement n'a toujours pas d'idée de la façon dont nous allons pouvoir le faire.
Questions about how to leave. Et la fronde, Antoine, prend de l'ampleur dans les rangs des conservateurs.
La colère même, avec désormais près de 25 élus chez les conservateurs qui demandent la tête de la première ministre Theresa May, accusée d'abord d'avoir mené son camp à la déroute en convoquant avant l'été les législatives anticipées, accusée donc d'avoir fait perdre la majorité absolue au Parlement aux Tories, accusée surtout de s'être entourée d'hommes comme Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, ou Liam Fox, le secrétaire d'État au commerce international, qui vient encore une fois de multiplier les dérapages. Le dernier en date, il a accusé Bruxelles de faire du chantage dans les négociations sur le Brexit. Anna Soubry, ancienne ministre du Commerce, qui a travaillé avec Theresa May, le dit maintenant, du coup, ouvertement, il faut que ça cesse.
Je pensais qu'on avait abandonné cette façon macho et hautaine d'aborder le dossier du Brexit. On a perdu notre majorité à l'Assemblée. Donc tout a changé. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on a perdu, c'est justement cette attitude insensée, idiote et hautaine. Le gouvernement doit changer sa façon d'agir et ce genre de discours doit cesser.
Sauf qu'en attendant, Antoine, le gouvernement reste en place.
Absolument. Et Theresa May aussi. Les tabloïds pariaient sur son éviction. Les backbenchers, les députés conservateurs qui ne sont pas proches du gouvernement, ne la voyaient pas rester après cet été. Et pourtant, eh bien, pas question de partir. La première ministre l'a rappelé plusieurs fois ces derniers jours devant les caméras de télé.
Je ne suis pas de ceux qui démissionnent, je suis impliqué à long terme. Le vrai travail qu'il y a à faire au Royaume-Uni, c'est obtenir un bon accord pour le Brexit, construire un partenariat spécifique et profond avec l'Europe dans le futur. C'est aussi d'aller dans le monde entier, montrer que nous pouvons faire ces accords commerciaux qui rendront la prospérité à notre économie et donneront des emplois à la Grande-Bretagne.
Et Antoine, j'ai une dernière question, la gauche, dans tout ça?
C'est une bonne question, parce que pendant que la droite se tape dessus, effectivement, la gauche est quasi inexistante et ne sait toujours pas vraiment comment se positionner. Pendant des mois, les travaillistes ont refusé de s'opposer au Brexit, essentiellement par peur de perdre des électeurs. Et puis, juste en rentrant de vacances, il y a quelques jours, Keir Starmer, en charge du dossier, et Jeremy Corbyn, le leader de la gauche, ont multiplié les déclarations. Nous voulons, disait-il, rester dans l'union douanière. Autrement dit, nous voulons un Brexit en douceur, sans fermeture des frontières. Le problème, c'est que cette position ne reflète pas totalement celle du parti, avec des députés qui disent « Vous allez nous couper couper de l'électorat, vous allez nous couper des classes populaires, de ceux qui ont voté pour limiter l'immigration. Eh bien, hier soir, Barry Gardiner, qui est chargé du commerce international, a expliqué à la radio britannique qu'en fait, il ne voulait pas forcément rester dans l'union douanière, mais dans une union douanière que tout restait à construire. Pour résumer, je vous donne l'opinion de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui publie une tribune dans le New Statesman. Le référendum, dit-il, était un choix binaire pour ou contre le Brexit, mais on n'a jamais vraiment su de quel Brexit il s'agissait.
Et ben ça en fera des épisodes, en tout cas, entre vous et moi, dans Un jour dans le monde. Brexit, saison 2, tous les lundis. Merci beaucoup, Antoine Gignoux.
So tragic, probably 44 moons or more. I don't wanna count how many days I've been dragged all around the floor. I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Ain't no I mean we got no time for games.
I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic.
I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, damn, I'm always on the run. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah.
I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic. I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic.
Sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do nothing else to do. We got no time for games.
Ils ont le Blue Magic, les Sun Little sur France Inter.
Power Hit Radio. Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi prise pour
60 minutes.
Florence Paracuelos, le retour. Vous avez votre place dans Un jour dans le monde, dont je vous redis pas bonsoir.
Non.
Et vous dénichez pour nous les pépites de l'info internationale passées sous les radars. Florence, on commence en Inde ce soir avec une nomination très commentée.
C'est une femme qui est désormais ministre de la Défense du sous-continent, Nirmala Sitharaman, nommée par le Premier ministre Narendra Modi dans un pays où la condition féminine est extrêmement difficile. Édition spéciale de Times Now hier, c'est le BFM TV indien et ouf, ça décoiffe.
Nirmala gets defense. That's the big breaking news coming in. Nirmala Sitharaman, new defense minister. That's the big
la journaliste.
Big breaking news.
En son et lumière, elle découvre en direct et en hurlant la formation du nouveau gouvernement sur son portable qu'elle brandit à l'antenne.
On essaiera ça la prochaine
fois. Nirmala Sitharaman, jusqu'à présent modeste secrétaire d'État au commerce, elle devient l'un des poids lourds du gouvernement indien qui compte 6 femmes. Merci donc au premier ministre indien Narendra Modi. Voilà le message de ses premières interviews.
The Prime Minister has always supported women.
Alors voilà, elle dit que le Premier ministre a toujours soutenu les femmes, qu'il envoie un grand message. Rendez-vous compte, le comité de sécurité du gouvernement compte 2 femmes sur 4. Désormais, la voix des femmes va compter autant que celle des hommes. Et c'est aussi un message pour le monde et ceux qui observent l'Inde en se demandant mais qu'est-ce qui arrive aux femmes en Inde ?
Et c'est vrai qu'on se la pose cette question, l'Inde qui a encore beaucoup à faire donc pour les droits des femmes.
Beaucoup contre eux, les viols, le harcèlement, les mariages forcés et l'avortement des petites filles. Entre autres, quant à Nirmala Sitharaman, elle n'est pas là pour faire de la figuration vu le contexte de tensions territoriales entre son pays, le Pakistan et la Chine.
Il ne savait pas vraiment mieux de ce côté-là du monde. Nous partons pour la Birmanie.
La Birmanie où les 3,5 millions de téléspectateurs de la MNTV, la télé birmane, ne profiteront plus de ce programme. Voilà, c'était le bulletin d'information quotidien de la BBC de Rangoon pour la télé birmane.
Donc c'est le
bulletin
dernier.
Qui ne sera plus assuré pour cause de censure. À plusieurs reprises, il a été supprimé des programmes de la chaîne parce qu'il parle des Rohingyas et qu'en Birmanie, le nom même de cette minorité musulmane est tabou. Ils sont 1 million dans le pays, privés des droits les plus élémentaires, interdits dans les écoles ou dans les hôpitaux. Une vague de violence s'est abattue contre eux depuis le 25 août. Quand des rebelles Rohingyas ont attaqué des postes de police. En réaction, l'armée a lancé une vaste opération de répression et près de 90 000 d'entre eux ont passé la frontière pour se réfugier au Bangladesh voisin.
Et on en parlera d'ailleurs dans un jour dans le monde des Rohingyas parce que, aussi, pas un mot, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix à la tête du gouvernement birman.
Rien, sa jeune homologue Malala, prix Nobel de la paix 2014, lui reproche d'ailleurs aujourd'hui sur son compte Twitter. J'ai le cœur brisé face aux souffrances des musulmans Rohingyas. Je n'ai cessé de condamner leur traitement honteux. J'attends toujours que ma collègue Aung San Suu Kyi fasse de même, dit la jeune pakistanaise nobélisée. La cause Rohingya également soutenue par l'homme fort de Grozny, Ramzan Kadyrov. Le président tchétchène a lui-même organisé et participé à une manifestation qui rassemblait des milliers de personnes aujourd'hui au cri d'arrêter le bain de sang. Kadyrov, qui sait de quoi il parle en la matière, lui dont les milices sont accusées des pires exactions.
Et toujours plus à l'est, Florence, et en un peu plus léger, le Japon entre chronique mondaine et poids des traditions.
Là-bas, c'est la petite fille de l'empereur, la princesse Mako, qui a annoncé ses fiançailles hier. Très sage, collier de perles et robe pastel. À côté de son promis, ils ont donné une conférence de presse. Et elle est très heureuse, la princesse Mako, de ses fiançailles approuvées par l'empereur. Elle dit aussi qu'elle sera ravie de former un foyer plein de douceur et de sourires avec son roturier, le futur mari. Le foyer, Fabienne, voilà tout ce qui l'attend. La princesse Mako, après son mariage, sera exclue de la famille impériale par le fait d'une loi qui ne s'applique qu'aux femmes. L'empereur lui-même et ses 2 fils ont épousé des roturières sans conséquence. Une loi qui fait débat alors que l'empereur Akihito s'apprête à abdiquer et qu'il n'y a plus que 3 héritiers au trône. Mais les conservateurs du Premier ministre Shinzo Abe veulent surtout ne rien changer. Pendant ce temps-là, la princesse Mako veille doucement sur moi comme la lune, a dit son futur, ce à quoi la jeune femme lui a répondu que son sourire était comme un soleil.
Quelle éclipse !
Devant toute la presse japonaise, la poésie pour faire oublier la mâle réalité.
Elle est sous les radars tous les jours avec vous, Florence Paracuelos. Merci beaucoup. Alexandra Kuhn est déjà là, Planète Média, c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
Avec ce qui fait réagir Alexandra, ce qui intrigue, ce qui agite les médias dans le monde et sur la toile, on commence comme toutes les semaines par le fake de la semaine et celui-ci pourrit la vie de Pepsi en Grande-Bretagne.
Et il a la forme d'un communiqué on ne peut plus officiel de la Metropolitan Police. Citoyens du Royaume-Uni, évitez dans les semaines qui viennent tous les produits de la marque Pepsi. Un employé de l'usine atteint du virus du sida y a ajouté son sang contaminé. 15 jours que l'information tourne sur les réseaux sociaux britanniques. Évidemment, c'est faux, mais je vous laisse imaginer la panique chez Pepsi. D'autant que ça n'est pas la première fois que cette fake news circule. On l'avait déjà vu en Inde en 2011. La Metropolitan Police a bien sûr démenti, faux communiqué, mais rien n'y fait. Pire même, la nouvelle s'est exportée au Nigeria, pays hautement consommateur de la marque de cola. Résultat, ce matin, la version nigériane du journal britannique The Guardian s'est fendue en ligne d'une mise au point.
On reste au Nigeria, Alexandra, avec un magazine pas banal qui vient de faire son apparition.
Une publication en ligne baptisée Nasty Boy, qu'on pourrait traduire par vilain garçon, coquin. Particularité, elle donne à voir des hommes en robe. Pour autant, A Nasty Boy ne se revendique pas comme un magazine gay.
The idea that men can only wear pants or shirts.
Comme explique son créateur Richard Acuson, ancien chroniqueur mode d'un magazine People au Nigeria, les hommes sont obligés d'être en pantalon et en chemise, alors que certains ont envie de porter des jupes et du maquillage. L'idée est plutôt de questionner en fait la masculinité dans une société où l'homosexualité est toujours passible de 14 ans de prison.
C'est une institution aux États-Unis. Après plus de 60 ans, The Village Voice, version papier, va disparaître.
L'hebdomadaire culturel fondé en 1955 à New York par l'écrivain et cinéaste Norman Mailer était pourtant passé au gratuit en 1996, un modèle économique qui n'a pas été une réussite. Un peu plus de 20 ans plus tard, le voilà contraint d'abandonner le papier. Et on a appris ce week-end que près de la moitié de ses 40 salariés vont être licenciés. The Village Voice continuera tout de même à paraître en quotidien sur le net.
Et puis on l'a entendu tout à l'heure déjà, hein. Ri Chun-hee, présentatrice de la télé nord-coréenne, mais vous l'adorez, vous voulez absolument nous la faire réécouter, oui. Alexandra. Parce que depuis samedi, c'est quand même la plus célèbre de la planète, en tout cas chez les Anchor Women.
Ah bah oui, de l'Inde à la Pologne. En passant par l'Afrique du Sud, Ri Chun-hee s'affiche dans toutes les langues sur Twitter. La presse internationale regorge de portraits de cette grand-mère ancienne actrice et star de la télé nord-coréenne pendant plus de 40 ans. Tapez son nom sur Google, hein, vous obtiendrez 1 200 000 résultats. À 74 ans, Ri Chun-hee est aujourd'hui à la retraite, mais son sens de la dramaturgie met tellement bien en valeur la propagande du gouvernement nord-coréen qu'on la ressort à chaque grande occasion, comme en 2011. L'annonce de la mort de Kim Jong-il, elle est à l'agonie des trémolos dans la voix, vous l'entendez. Et ça, Fabienne, c'est vraiment une présentatrice qui sait être en empathie avec son sujet et son public.
Voilà, c'est très nord-coréen. Merci beaucoup, Alexandra Acone sur France Inter. Et à 18h57, l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous emmenez à Caracas, où le régime, une fois de plus, est critiqué par toutes les capitales européennes.
Et cette fois-ci, c'est Liliana Tintori qui s'est vue confisquer son passeport à l'aéroport alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour l'Europe. Liliana Tintori, ce n'est pas n'importe qui. Elle est l'épouse de Leopoldo López, ancien maire de Caracas, et surtout un des principaux opposants au régime de Nicolas Maduro. Mais elle est surtout aussi devenue, pour elle-même, l'emblème de l'opposition. Son courage en a fait une sorte de passionnariat. Elle est jeune, tenace, elle sait parler aux médias, et cette tournée européenne était une occasion de donner un visage à cette opposition. Elle devait rencontrer Emmanuel Macron à Paris, Mariano Rajoy à Madrid ou encore Angela Merkel à Berlin.
Et que lui reproche-t-on alors pour la convoquer devant un juge ?
Mais j'allais vous dire, peu importe. Que reproche-t-on à son mari jeté en prison et condamné à 14 ans au cours d'un procès évidemment politique ? Donc peu importe que le régime de Caracas reproche à Leopoldo López ou à son épouse, l'un est en prison, l'autre interdit de sortie de territoire. Voilà pour les faits. Je voulais d'ailleurs revenir sur une petite musique très désagréable qu'on entend en ce moment à Paris ou ailleurs en Europe. L'opposition sur ton ne serait pas aussi démocratique que cela, on y trouverait des éléments d'extrême droite. Voilà comment s'insinue le soupçon. La vérité, c'est que l'opposition au régime de Caracas est formée dans son écrasante majorité des militants et des cadres des deux anciens partis qui se partageaient le pouvoir avant l'arrivée de Chavez, c'est-à-dire les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates.
Ça ressemble un peu à l'Italie des années 90, hein, ce que vous nous décrivez.
Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. C'est sur le modèle du partage de pouvoir entre sociodémocrates et chrétiens-démocrates italiens que s'organise le pouvoir à Caracas, et ce depuis 1958. Je suis d'accord avec vous pour dire que cela était un petit peu incestueux, que grosso modo, l'élite vénézuélienne s'arrangeait pour se maintenir au pouvoir, mais on est très loin de l'extrême droite fascisante décrite par certains. C'est si vrai que le Venezuela a servi de havre à toute la gauche sud-américaine, persécutée par les dictatures militaires en Argentine ou au Chili. Le Venezuela n'a pas connu de dictature depuis 1958, c'était un cas unique dans la région.
Et puis on dit surtout que la chute des prix du pétrole est avant tout responsable de cette crise.
Et à la bon dos, la chute des prix du baril. Reprenons, si vous le voulez bien. Chavez est arrivé au pouvoir en 1999, justement parce que le prix du baril de pétrole avait été divisé par 2, voire par 3. Il était tombé à l'époque sous les 15 dollars le baril. Cela avait entraîné des manifestations, réprimées d'ailleurs, mais pas de pénurie dans les magasins et les hôpitaux. Jamais le Venezuela n'a connu une pareille crise économique, sociale et politique que celle d'aujourd'hui, alors que le baril tourne autour de 50 dollars.
Merci beaucoup Anthony Bélanger pour l'édito dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue avec le téléphone sonne, la police de proximité revient. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour vous? 01 45 24 7000, le mot dièse, tel sonne.